Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, j'ai retrouvé ma voix, ça peut surprendre certains. Je devais prêcher il y a une quinzaine de jours et la voix n'était plus là. Que nous sommes si fragiles. Et cette semaine, nous avons eu un événement particulier. Nous, pour certains d'entre nous, nous avons connu, côtoyé notre frère Jean-Claude Relier. Et ce mercredi a eu lieu ses obsèques. Et nous voulons bien sûr penser à son épouse et à toute sa famille, et aussi d'une manière très concrète témoigner de notre amour fraternel. Et il y a la boîte, si certains ont à cœur aussi de participer aux frais d'obsèques, qui se sentent aussi la liberté de le faire. Et nous pourrons ainsi soutenir son épouse dans ce moment aussi difficile. Mais je vous invite surtout à prier pour eux également. Nous savons combien la séparation des êtres chers est douloureuse. Alors, ce matin, vous savez qu'il va falloir faire un exploit. Dites-vous bien que j'ai eu plus de temps et j'ai eu aussi beaucoup plus de temps pour méditer la parole, mais surtout pour vivre ce que Dieu voulait nous dire. Et j'ai remarqué une chose, c'est que le premier qui met dans l'exercice, souvent, c'est celui qui le prêche. Et en même temps, heureusement, s'il nous venait l'idée de vous prêcher quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous-mêmes nous n'éprouvons pas, alors qu'allons-nous prêcher ? Nous avions démarré dans la lettre de Pierre il y a quelques mois déjà, et nous avions déjà démarré par une introduction à la lettre de Pierre. Nous nous sommes rappelés au début, mais qui nous parlait ? Qui est ce Pierre ? Ce Pierre qui était un pêcheur, ce Pierre qui a été un homme fougueux, un homme qui quand même un jour a rencontré Jésus-Christ et qui a vu sa vie bouleversée. Et voilà ce Pierre qui commence et qui écrit à la fin de sa vie une lettre à des églises qui sont plutôt du côté de l'Asie et puis qui vivent des moments difficiles. Mais voilà, une vie bouleversée par l'amour de Dieu. Et c'était lui qui nous a, sur lequel on s'est un peu attardé, voir qu'est-ce que Dieu avait fait dans sa vie. Puis ensuite, dans la deuxième prédication, nous avions vu, mais vivre en témoin, ça veut dire quoi ? En témoin de Christ. Quel est ce caractère ? Qu'est-ce qui change ? Quand on rencontre Jésus, qu'est-ce qui change quand l'Esprit de Dieu intervient dans notre vie ? Quel est le caractère de notre Seigneur qui vit en nous ? L'humilité, la joie, la sainteté, la patience, la fidélité, la miséricorde, l'amour, l'espérance. Et alors là, ce matin, c'est on ne peut plus concret. On va rentrer dans le côté pratique de la chose. Et le titre que j'ai proposé, c'est « Admirateur ». Et on peut passer d'admirateur à imitateur, une foi victorieuse. Et alors, je vais vous inviter donc à prendre une longue section ce matin de l'épître de Pierre, donc au chapitre 2, du verset 11, au chapitre 3, au verset 17. Et donc dans ce programme que nous avons ce matin, je ferai ensuite, après la lecture, un rappel, mais non, je vais le faire tout de suite même d'ailleurs, je vais vous faire d'abord un rappel historique, ensuite on va lire le texte, on verra quelques éléments du contexte de cette lettre, quelques éléments des exemples de vie, nous verrons ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils vivent et comment l'apôtre Pierre les invite à vivre, qu'est-ce que c'est cette soumission volontaire, pour qui, pourquoi ? Pour le Seigneur, et puis les limites, les points de vigilance. Parce que je dois bien vous avouer que ce texte-là a été utilisé bien des fois, de bien des manières, et malheureusement, parfois de mauvaises manières. Et puis nous verrons justement ce questionnement peut-être aussi pour nous ce matin, admirateur ou imitateur ? quelle direction pour nous ? Alors, juste avant le texte, quelques éléments. Donc, cette première lettre de Pierre s'inscrit dans un contexte toujours de crise majeure, je le rappelle. On est sous l'Empire romain, probablement donc au début des années 60, pas 1960, hein, pas d'erreur, début du siècle. Et donc c'est environ à peu près 30 ans à la mort de Jésus. Donc normalement 30 ans c'est encore frais dans nos esprits, hein, même si on sait qu'avec le temps les choses s'effacent. Et puis dans l'année 64, voilà qu'un incendie dévaste la ville de Rome pendant plusieurs jours. Une grande partie de la ville est détruite. Imaginez, hein, Paris, s'il y avait les flammes. Déjà, quand il y a un immeuble, on n'en peut plus. Et c'est terrible. Et puis, très vite, des rumeurs se répandent. L'empereur Néron, le chef désireux de remodeler Rome et d'y reconstruire, ou du moins d'y construire de nouveaux complexes monumentaux, eh bien, en fait, ce serait lui qui serait à l'origine de l'incendie. Un désir fou. Cet événement, en fait, provoque une onde de choc dans la société romaine à l'époque, et on peut l'imaginer. Hein. Je vous disais, imaginez, quelqu'un veut mettre le feu à Paris dans un désir fou de le remodeler. Et les Romains constatent que leur dieu, leur rite, leur temple et les systèmes cultuels n'ont pas protégé la cité. Tout ça n'a servi à rien. Une forme de désillusion religieuse, quelque part. Voilà ce qui traverse le peuple romain. Les divinités censées garantir la paix, bien, elles ont échoué. La stabilité spirituelle et politique de Rome vacille. Tout est chamboulé. C'est pas « je vous mets le feu hein. », il a mis le feu. Et donc détruit non seulement des bâtiments, mais aussi des vies. Et face à la colère populaire, et afin de détourner les soupçons, qu'est-ce qui se passe ? Néron désigne un bouc émissaire. Les chrétiens. Bah oui, pourquoi pas ? Ils ne sont pas nombreux, ils sont minoritaires. Ils sont mal compris, puis refusent en plus le culte impérial. Ils sont perçus comme subversifs. C'est-à-dire que c'est une menace pour l'ordre en raison des valeurs qu'ils ont, elles sont différentes. Ces chrétiens-là sont différents. Et donc, ils deviennent une cible idéale. Ça nous rappelle des choses, hein. Les Juifs pendant la Seconde Guerre. Une cible idéale, une minorité. Oui, les chrétiens sont différents. Ils sont différents dans leurs mœurs. Des valeurs différentes, une mentalité différente. Alors, si vous vous sentez différent ce matin parce que vous êtes chrétien, ben, vous êtes à la bonne adresse. Hein. Sachez-le, n'ayez pas peur, c'est normal. Bref, les chrétiens ne sont pas conformes à la pensée du monde. Ni de l'époque, mais bon, encore aujourd'hui. Alors commence une période de persécution violente. Voilà le contexte. C'est parfois local, parfois systématique, parfois il y a des humiliations publiques, la marginalisation sociale, l'emprisonnement, la mise à mort, le Colisée. Des fois on s'émerveille, mais bon, quand on sait ce qui s'est passé là-bas, quand on voit les catacombes, quand on voit que des centaines, des milliers de chrétiens ont été massacrés, mangés, violentés par des bêtes féroces. Un lieu où les martyrs ont dû rester debout à cause de leur foi. C'est dans ce climat de pression et d'hostilité et d'injustice que l'apôtre Pierre écrit aux croyants dispersés en Asie mineure. Et il ne s'adresse pas à une église triomphante, hein. Ils ne sont pas là en train de voir le magnifique calendrier de la semaine hein, avec plein d'activités. Hein. L'activité, a priori, c'est de veiller et prier et peut-être même se remettre à Dieu parce que qui sait si demain ils seront en vie. C'est une communauté fragile, exposée aux soupçons et très éprouvée. Voilà à qui s'adresse notre apôtre. Et puis... Pierre appelle les chrétiens, dans un moment terrible, à avoir une conduite irréprochable. Alors, au sein d'un monde hostile, voilà. Voilà le programme que l'apôtre Pierre leur demande, non pas par compromission, mais par un témoignage. Et en suivant qui ? En suivant le modèle de Christ. Le Christ souffrant, innocent, fidèle. Et cette lettre n'est pas une fuite hors du monde, comme certains des fois l'avaient proposé, mais c'est bien un enseignement à la résistance humble, à rester debout, rester dans une vie de piété, à chercher la face de Dieu, à une vie qui plaît à Dieu, dans la sainteté, dans l'espérance, malgré l'épreuve. Alors prenons tout de suite cette lettre et voyons d'une manière très très concrète. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Si, c'est moi qui est tout petit. Ok. Eh bien, nous allons prendre cette lettre et nous allons commencer par le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il la visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter toute affliction par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point l'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retrouvés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non seulement cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements en or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Là, je vais devoir me tourner avec vous parce que c'est trop petit pour moi là. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à la prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Très longue lecture, mais tellement riche. C'est pour bien comprendre aussi toutes ces applications. Alors, nous sommes aujourd'hui devant un passage qui nous parle d'une vie vraiment tellement radicale quelque part. Pierre s'adresse à des chrétiens, je l'ai dit tout à l'heure un peu, ils sont dispersés, ils ont été persécutés, ils le sont encore et ils vivent vraiment en exil. Et oui, quelque part, il leur dit quand même quelque chose d'assez surprenant. Votre manière de vivre peut transformer ceux qui vous entourent. Votre manière de vivre peut transformer ceux qui vous entourent. Alors, Pierre ne parle pas d'admirer à distance. Il s'agit là, c'est pas d'applaudir Jésus depuis des gradins quelque part. On peut admirer Jésus. Et je pense qu'il faut l'admirer Jésus sur tout ce qu'il a fait. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais là, quelque part, il va beaucoup plus loin. Il leur dit, mais il s'agit de l'imiter, de marcher sur ses traces, même quand cela vous coûte. C'est un chemin que nous allons donc explorer ce matin, tous ensemble. Alors, dans le contexte, je vous en ai un peu parlé, mais Pierre écrit bien aux chrétiens, et ils sont dans une société, et donc ils sont... minoritaires, et puis ben voilà, hein, les autres, les Romains, ils adorent d'autres divinités. Ils sont suspectés d'être des criminels, alors je ne vous dis pas l'ambiance. Quelque part aussi, on les traite de révolutionnaires, de gens qui veulent se rebeller contre l'autorité, l'ordre établi, contre l'empereur, contre César. Et puis en plus de ça, ils appellent Seigneur Jésus. Alors que pour beaucoup, c'est plutôt César, leur Seigneur. Il leur rappelle à ces chrétiens leur statut, et quelque part aussi le nôtre, des étrangers, des voyageurs. Ce n'est pas une métaphore uniquement, dans ce cas aussi, parce que beaucoup, et ils s'adressent, on le voit, ils s'adressent aussi à des esclaves. Et beaucoup étaient des immigrés, des gens sans droit civique complet. Et Pierre aussi va beaucoup plus loin et en tout cas leur rappelle, oui, vous êtes peut-être des étrangers, et c'est bien normal parce que votre vraie citoyenneté, elle est au ciel. Voilà votre espérance. Alors il leur donne quelques mises en garde. Notamment dans un monde gréco-romain Eh bien, alors bon, je sais que l'actualité, on a l'impression qu'on est dans le même contexte, mais peut-être pas si loin. La sexualité était souvent débridée. La vengeance, c'était un principe de base aussi. Elle était honorable. Et puis l'ambition personnelle, elle était tout à fait valorisée. Alors si vous reconnaissez des choses un peu équivalentes aujourd'hui, peut-être parce que le cœur de l'homme n'a pas vraiment changé. Il y avait les bains publics, les festins, les temples païens, étaient donc, il y avait toutes sortes d'excès. Et pour un chrétien, vivre différemment signifiait se marginaliser socialement. Ah, forcément, on vous repère, si vous ne participez pas à tout ça. Et que dire aussi de nos frères et sœurs qui, à travers le monde, sont marginalisés? Ne croyez-vous pas qu'ils vivent un petit peu de ça? Ou un peu beaucoup même? Combien perdent leur emploi? Combien sont battus? Combien sont mis à mort? Combien sont massacrés en ce moment? Les chiffres de l'index de persécution n'ont jamais été aussi mauvais. Il n'y a qu'à regarder. Et Pierre leur dit, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et puis, ce n'est pas du puritanisme rigide. Ce n'est pas une injonction comme ça en l'air, mais c'est une reconnaissance lucide qu'il y a des désirs qui ne sont pas, qui ici ne sont pas maîtrisés, qui ici ne sont pas mis de côté, nous détruisent intérieurement et détruisent et mettent une distance parce que le péché nous éloigne de Dieu. Et puis, en fait, un petit peu avant dans ce texte, il le dira lui-même, l'apôtre Pierre, à cette église, à ces églises, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » C'est une parole du Maître qu'il nous faut et à laquelle on est invité. Et Pierre établit un principe. Votre bonne conduite au milieu des païens est un témoignage. Même ceux qui vous calomnient peuvent être amenés à glorifier Dieu en voyant vos œuvres. Alors, ça peut des fois paraître un témoignage silencieux. J'avais pas les mots, j'avais pas les paroles. Oui, mais ton attitude révèle qui tu sers. Ton attitude révèle qui tu sers. Il parle aussi des autorités. Alors, c'est un sujet qui m'anime beaucoup, les questions d'autorité, puisque moi-même, je suis professionnellement dépositaire d'une autorité, l'autorité judiciaire. Mais nous avons tous une autorité dans notre sphère personnelle, qu'elle soit vis-à-vis de nos proches, dans des relations père-enfant, parents-enfant, dans nos responsabilités de différentes natures. Mais là, il s'agit de quoi ? Alors que dans l'Empire romain, il y a pas mal de persécutions, Pierre appelle à la soumission aux institutions humaines. À cause de qui ? À cause du Seigneur. Et puis pourquoi ? Parce que le témoignage de ces chrétiens et des chrétiens ne passe pas par une rébellion. Rébellion. On avait des disciples à l'origine, des nationalistes qui voulaient s'opposer au régime romain, qui voulaient renverser la table, prendre les armes, reprendre le contrôle de leur destin par la force. Et Pierre connaissait bien le sujet. Mais ce n'est pas à cela qu'on est appelé. Non. Il leur dit, ce n'est pas la route. Il leur dit, mais c'est par l'excellence morale. C'est par cela que vous allez déstabiliser les préjugés. Et notez bien, il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle. Pierre est très très lucide. Il dit ailleurs qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dans le livre des Actes, au verset 5 et au verset 29. Mais dans les zones grises de la vie quotidienne, les chrétiens honorent l'ordre. Et l'ordre est bon, parce que sans code de la route, c'est le désordre sur la route, et c'est le chaos. Imaginez sans ordre. Et c'est vrai que ce n'est pas compliqué à comprendre, il n'y a qu'à voir quand on a un pays qui passe dans la guerre civile. Et là, c'est terrible. Et là, tout le monde souffre. Alors, il y a aussi des limites à la soumission. Parlons franchement de ce qui trouble tant de conscience. C'est que faire face aux abus d'autorité. Pierre, il n'est pas naïf, il écrit sous Néron, et puis là, voilà, c'est vraiment un empereur qui est tyrannique. Et Pierre lui-même a été face à des autorités religieuses, le Sanhédrin. Mais des fois, il y a des abus d'autorité, des autorités qui sont dans leur exercice illégitime. Et il dira même, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et aujourd'hui, quand un gouvernement persécute des chrétiens, bon, il n'y a qu'à prendre l'index, des chrétiens persécutés, on peut avoir une petite idée de ce qui se passe. Et ces chrétiens font face à des choix déchirants. Et certains pratiquent la résistance non violente, continuent à prier. Et nous-mêmes, nous sommes invités à prier pour nos autorités. Parfois, certains vivent l'Église exilée, l'Église clandestine. Et ce ne sont pas des lâches, mais ce sont des disciples qui comprennent que leur citoyenneté première, elle est céleste. Alors c'est vrai que nous, on est vraiment privilégiés dans nos sociétés occidentales. On a des grandes libertés. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas soumis parfois à des pressions et aussi à des ordres ou à des injustices. Et si une autorité exige ce que Dieu interdit, ça peut arriver, et c'est arrivé dans l'histoire, pas si lointaine, contemporaine, l'Allemagne nazie, clairement, a eu une attitude hérétique, avec une volonté de transformer l'Évangile, en justifiant justement à travers les Écritures que les Juifs devaient être tués, parce qu'ils avaient tué le Christ. Oui, il y a des hommes qui ont cette tentation fâcheuse de tordre le sens des Écritures. D'où l'importance d'être bien enseigné, d'être bien affermi dans la parole de Dieu. Et parfois, désobéir peut être un signe de fidélité à Dieu. Certains connaissent Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur allemand qui a connu effectivement l'Allemagne nazie. Et il a dénoncé rapidement le régime nazi comme étant très très loin de la vérité de la parole de Dieu. Oui, il y a parfois des attitudes courageuses à avoir, de se lever et de dire la vérité de ce que c'est et de ce que ce n'est pas, et de ce que dit la parole et de ce que ne dit pas la parole de Dieu. Oui, la Bible pose des limites nettes à toute autorité. Et quand l'autorité qui est confiée à quelqu'un, ça devrait être notre curseur, détruit la vie, nie la dignité humaine, exige aussi ce qui appartient à Dieu, alors le croyant doit réfléchir, prier pour discerner et dire, comme peut-être l'apôtre l'a pu le dire, il vaut mieux t'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors que ferait Jésus face aux abus de pouvoir aujourd'hui? Je crois que ce qu'il nous a montré dans l'Évangile, c'est qu'il protégerait les victimes. C'est qu'il confronterait les abuseurs. C'est qu'il démasquerait les faux discours. C'est qu'il appellerait à la repentance. C'est qu'il a fait même parfois face aux autorités religieuses, il les a confrontés. Jésus n'a jamais été du côté de ceux qui écrasaient, ni du côté des silences complices, ni de ceux qui voulaient dominer, écraser. Alors nous avons l'exemple de Christ souffrant. Voici le cœur du passage aussi. Pierre s'adresse aux esclaves domestiques et il leur demande d'imiter le Christ dans des souffrances injustes. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, au verset 21. Ce n'est pas un exemple à admirer, mais c'est bien un exemple à suivre. Pourquoi admirateur ou imitateur ? Dans le monde contemporain, nous savons très bien ce que signifie admirer. On admire une personne publique, un artiste, un sportif. Certains admirent les basketteurs et d'autres encore, ou même des hommes de Dieu. Mais admirer, c'est regarder avec intérêt, c'est éprouver de l'estime, c'est parfois avec de l'émotion. Mais cela ne nous engage pas forcément et nécessairement. Être un admirateur, c'est apprécier quelque part à distance. C'est reconnaître des paroles fortes, avec une valeur élevée, un exemple. Mais la question alors qui se pose avec sérieux, sommes-nous des admirateurs de Christ ? Ou allons-nous un peu plus loin ? Et sommes-nous des disciples qui cherchent à l'imiter, qui le suivent ? Je vais accélérer parce que je vois que le temps passe, mais je voudrais vraiment dire quelques mots sur les relations conjugales. Pierre applique maintenant ce principe au mariage, aux femmes d'abord. Même si votre mari n'obéit pas à la parole, gagnez-le par votre conduite, sans un mot. Dans une société où les femmes n'avaient presque aucun pouvoir, pas de statut, quasiment au stade des esclaves, Pierre leur donne le pouvoir le plus grand, celui d'un témoignage, silencieux mais saint, par choix, pour le Seigneur. Il leur dit que la beauté véritable n'est pas celle de la parure extérieure, même avec le plus beau maquillage, avec les plus beaux bijoux. Non. Mais votre beauté, elle réside dans votre esprit qui est doux, paisible, dans votre caractère, qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Alors les hommes, vous n'êtes pas oubliés, nous ne sommes pas oubliés. Vivez de même avec intelligence avec votre femme comme avec un vase plus fragile, en lui rendant honneur comme co-héritière de la grâce de la vie. Et attention, voici le point crucial que je trouve important à souligner, afin que vos prières ne soient pas entravées. Alors vous entendez, un mari qui mépriserait sa femme, qui ne pourrait l'honorer ou qui ne lui donnerait pas l'honneur qui lui est dû, c'est-à-dire le respect, l'amour, l'affection, l'attention, qui même pourrait avoir abusé de sa force, verra toute prière bloquée. C'est un obstacle spirituel majeur. On ne peut pas maltraiter son conjoint et s'attendre à ce que Dieu écoute nos belles prières, même si elles sont dans l'église le dimanche matin. Je crains que ça ne dépasse pas le plafond si nous sommes dans cette situation. Alors je vais juste m'arrêter là parce que je vois le temps qui passe, mais je voudrais vous inviter à un examen personnel. Au tout début de ce chapitre 2, je vais le relire, « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Voilà l'apôtre qui nous invite à un examen personnel, intérieur, profond. Et il y en a pour tout le monde. Il y en a dans nos relations professionnelles. Il y en a Comment je vois mon patron ? Il est juste, il est injuste. Il est bon, il est mauvais. Est-ce que je suis dans une attitude pour le bénir, pour dire du bien, pour reconnaître ce qui est juste ? Est-ce que moi-même, quelle attitude j'ai eue ? Est-ce que j'ai été dans des propos de médisance, peut-être d'envie ? Est-ce que j'ai reflété la nature du Christ ? Est-ce que dans mes relations familiales avec mon frère, ma sœur, est-ce que je suis là pour le relever, pour lui tendre la main ? Ou est-ce que je lui dis des choses pour l'oppresser ? Est-ce que je reflète la nature de Christ ? Est-ce que mon cœur est doux et humble ? Est-ce que le matin, en me levant, je me dis « Seigneur, remplis mon cœur de ta douceur. Remplis-moi de ton amour, que je puisse aimer les autres comme tu m'aimes. » Est-ce que dans mes relations conjugales, si mon mari ou mon épouse n'est pas à Christ, inutile de lui mettre des versets bibliques dans le visage tous les jours. L'apôtre Pierre est clair, hein. Notre attitude, notre caractère, notre douceur, notre bonté. Voilà comment les gagner. Des fois, ce sont nos enfants. Des fois, ce sont nos amis. Des fois, nos grands-parents. Bien sûr, il y a la prédication de l'Évangile. Mais une fois qu'elle est faite, il reste votre témoignage et notre témoignage à tous. Comment ils vont voir le Christ en vous ? En témoignant son caractère, en témoignant son amour. Il veut faire cette œuvre en nous. On pourrait l'admirer de loin pour ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et alors on pourrait être là devant ces trois croix et dire « Très bien, merci Seigneur, c'est magnifique, c'est extraordinaire ce que tu as fait. » Et puis je pourrais aller m'asseoir là et dire « Merci Seigneur, je veux contempler ça. » Mais je ne suis pas arrivé. C'est pas là que ça se joue. Il nous demande de nous mettre debout, de le suivre, pas à pas, de marcher derrière lui. Il a été méprisé, rejeté, injurié. Comment allons-nous réagir nous-mêmes ? Heureux serez-vous quand vous serez méprisé, rejeté, humilié, à cause de moi. N'ayez pas peur de cela. Christ est là et il saura être notre joie dans ces moments-là. Amen. Je vais juste prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Parce que tous les jours, tu veux nous enseigner pour notre croissance, pour notre bien. Tu nous témoignes ton amour et tu veux nous appeler bons et fidèles serviteurs. Tu nous appelles à ta suite. Tu vois, toutes les fois où nous nous sommes arrêtés en chemin, toutefois, nous ne voulons pas rester peut-être assis, admirateurs. Nous voulons contempler ta gloire. Et nous voulons vivre à ta suite, marcher dans tes pas pour te plaire. Viens à notre secours, viens faire grâce, Seigneur, à ton peuple. Tu vois, tous ceux et celles qui vivent dans des situations peut-être douloureuses, des situations douloureuses où l'autorité n'est pas juste, merci de les éclairer. Merci Seigneur de nous aider à bénir ceux qui nous maltraitent. Merci Seigneur de nous préserver, de nous aider à quitter parfois certains lieux. Tu nous appelles à vivre en paix. Aide-nous Seigneur à être des ambassadeurs de paix pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.